winds 120 knots to the west.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Oh my God.
Radio X.
Merci d'être resté après cette performance qui laisse à désirer du staff de Choix 98.1 Radio X. Bienvenue dans l'émission des Radio X-Files, édition du vendredi 15 décembre 2023. Retour à la thématique des ovnis ce soir et sans plus tarder, voici l'extrait qui lance l'émission de ce soir.
OK, équipe A, vous êtes prêts pour l'alunissage. On est parti pour la Lune.
C'est beau, hein?
Cette mission marquera l'utilisation des premières caméras mobiles de surface.
Il faut que j'immortalise ça. Ned dit qu'ils ne l'auront plus jamais.
Sur l'arête, à 10h.
On a trouvé un scaphandre russe. Et on suit ce qui semble être des traces de pas faites par un cosmonaute soviétique.
Pourquoi on ne nous a rien dit ?
On reçoit des signaux forts et clairs des deux émetteurs. Votre mission est terminée.
Il y a un truc là-dehors.
Un truc se déplace.
Il y a un truc dans ma combinaison.
Je peux pas le couvrir !
Avant de saluer notre cher Christian et de commencer l'émission, il y a une grosse nouvelle cette semaine qui a été partagée sur la page Facebook des Radio X-Files. Et je commence avec ça, Christian, en te félicitant pour tes récents bilans de santé d'entrée de jeu. Je sais que le temps est un petit peu plus compté ce soir, fait que je veux pas m'étirer là-dessus, mais c'est digne de mention. Ça va bien, t'as eu des bonnes nouvelles, puis je suis tellement contente pour toi.
Ben, écoute, merci et merci aussi du support des auditeurs. Oui. Parce que bon, j'ai fait cette annonce-là, les gens me contactaient en privé, comment ça va. Fait que là, je l'ai annoncé, effectivement, j'ai passé des bilans. Et après 3 ans, donc, de ce diagnostic de cancer, il y a absolument aucune récidive. Et pour la première fois, donc, mon chirurgien s'est montré, d'habitude, il est plutôt renfermé, hein. C'est pas le type le plus démonstratif.
Ah oui?
Mais pour la première fois, il me dit, ben là, écoute, après 3 ans, la situation est tout à fait stable, tous les résultats sont beaux. Et je pense que il est encore trop tôt pour parler de guérison, mais là, on peut vraiment ouvertement parler d'une rémission vers une bonne guérison. Fait que, écoute, j'étais tellement enthousiaste que j'ai effectivement partagé la nouvelle. Je suis très content. Le retour également que j'ai des auditeurs, il est merveilleux.
C'est une belle vague d'amour.
Ouais, donc j'ai eu mon cadeau de Noël, moi, si je peux dire. Là.
Exactement. Mais je suis super contente pour toi et je voulais le mentionner d'entrée de jeu. Ce soir, tu veux nous parler, en fait, c'est le retour de la thématique des ovnis et des contacts extraterrestres.
Oui, et il y a deux raisons pour lesquelles j'ai choisi cette thématique ce soir. Bon, évidemment, on est dans le cadre de nos émissions où on parle d'ovnis, mais il y a deux nouvelles cette semaine qui ont attiré mon attention. Je me suis dit, ça serait le fun de revenir un peu sur cette question des ovnis et les vols spatiaux, parce que c'est de ça dont il va être question. Cette semaine, la NASA, malheureusement, nous a annoncé qu'il était fort probable que la mission Artemis, qui devait voir l'arrivée ou le débarquement à nouveau d'astronautes sur la Lune, allait probablement être retardé jusqu'en 2027.
Oh.
C'est pas encore officiel, mais disons qu'actuellement l'aspect administratif qui gère le programme Artemis en fonction des retards qu'accumule actuellement SpaceX sur le lanceur, parce que c'est de ça dont on parle, hein, c'est oui. Le lanceur, et parce que les gens se posent la question, mais oui, mais si on y est allé dans les années 60 avec une technologie un peu obsolète, comment expliquer qu'on a tellement de difficultés à y retourner aujourd'hui avec une meilleure technologie? En fait, la raison est simple, c'est parce que l'objectif visé n'est pas du tout le même. S'il fallait envoyer des astronautes sur la Lune et les ramener, bon, je pense qu'on l'aurait fait, et ça depuis longtemps. Là. On a la technologie pour faire ça, ça pose pas un problème. Mais là où c'est plus difficile, c'est que l'objectif n'est plus simplement d'envoyer des astronautes sur la Lune et de les ramener comme on le fait dans les années 60 et début des années 70, mais c'est d'y retourner pour y rester. Donc, on doit concevoir tout un autre système de vaisseaux qui va permettre d'arriver, de se mettre en orbite autour de la Lune. C'est vraiment là, il faut vraiment voir la mission Artemis, comment c'est complexe. On va mettre en orbite autour de la Lune une espèce de station spatiale dans laquelle vont séjourner des astronautes. Et le vaisseau va partir de la Terre, va aller se brancher sur cette station non plus orbitale, mais lunaire, qui va flotter autour de la Lune. Et là, des astronautes vont passer de cette station-là pour se transférer dans un vaisseau qui, lui, va agir un peu comme un ascenseur. Il va aller déposer des astronautes sur la Lune et va pouvoir en ramener à nouveau dans cette station-là. Et les astronautes qui seront sur la Lune vont vivre dans un campement qui va être là et on va développer une base lunaire. C'est vraiment un scénario digne de science-fiction et ça n'a rien à voir avec les missions Apollo des années 60.
On ne peut pas se permettre d'aller trop vite dans le processus. Il y a trop d'enjeux là-dedans.
Oui, et c'est un système excessivement complexe. Donc, il faut éviter de faire ces comparatifs un peu boiteux entre les missions Apollo des années 60, où là, c'était vraiment on y va et on revient, alors que là, maintenant, c'est on y va, mais on s'y implante, on installe des équipements, des infrastructures, et donc là, on doit envisager des vaisseaux. Quand on regarde les vaisseaux spatiaux Apollo, la fusée Saturne V qui transportait le vaisseau, le vaisseau, quand on regarde ça, c'est immense la fusée, puis au bout, là, complètement au bout, on a une toute petite partie qui était une espèce d'objet un peu triangulaire, un peu comme un champignon, puis c'était là-dedans qu'étaient les astronautes, mais tout le reste n'était que du carburant.
Ouais.
Et il y avait à peu près aucune charge utile, là, c'était toute la fusée n'était que du carburant. La seule charge utile, c'était juste en dessous du vaisseau Apollo, là, pour les missions lunaires. Il y avait un petit garage et il y avait le LEM lunaire qui était là. Mais tout le reste, ça demeurait du carburant. Là, on doit concevoir des vaisseaux qui vont bien sûr, il va falloir mettre du carburant. Mais en plus du carburant, il faut que ces vaisseaux-là puissent transporter des charges utiles.
Des toilettes.
Oui. Puis c'est pas, il doit pas transporter que des astronautes. Il doit transporter du matériel qui va servir à s'installer sur la Lune. Donc, éventuellement, on doit amener le vaisseau, autrement dit, doit à la fois jouer le rôle de propulseur, donc d'envoyer les astronautes sur la Lune.
Et de stabilisateur.
Oui, et de camion. Hein, il doit transporter du matériel. Ça doit être un gros dix-roues de l'espace. Là. Il doit amener du matériel là-bas pour qu'on puisse s'installer. Donc, c'est vraiment un système excessivement complexe. Et bien sûr, moi qui a vécu les vols Apollo dans les années, fin des années 60, début des années 70. Toi, Camille, tu étais beaucoup trop jeune pour ça. Je pense que tu étais même pas au monde à cette époque-là.
Effectivement.
Mais, évidemment, on était très enthousiastes de voir ça. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment vers un autre aspect de l'exploration spatiale qu'on va s'ouvrir. Et, moi, j'avoue que j'ai très, très hâte de revoir des hommes débarqués sur la Lune, des hommes et des femmes, bien sûr, débarqués sur la Lune, parce que là, cette fois, on a compris que contrairement aux missions des années 50, des années 60 et 70, cette fois, on va envoyer également des gens, des astronautes des deux sexes, mais ça va être également des missions qui vont être internationales. Ce ne sera plus qu'une mission américaine. Il y aura plusieurs joueurs internationaux. Donc, on va voir des gens de tous les horizons, de toutes les communautés, de toutes
J'avais
les obédiences religieuses.
J'avais pas vu aussi qu'il y aura pas comme un doyen également. Tu sais, on va amener comme une personne d'un certain âge aussi pour battre les records. Ça, on essaie de pousser le plus loin possible les réalisations.
Effectivement. Donc, on sait que le voyage dans l'espace ne représente pas un trop gros problème pour les gens qui sont plus âgés. Hein, durant les vols des navettes spatiales, par exemple, on sait que l'astronaute John Glenn, qui a été le premier Américain à être mis en orbite autour de la Terre, il avait succédé les Russes. Les Russes l'avaient fait avant avec Yuri Gagarin, mais le premier Américain à orbiter autour de la Terre, et non pas le premier Américain dans l'espace. Hein, parce que le premier Américain dans l'espace, c'est un type qui s'appelle Alan Shepard n'a pas orbité autour de la Terre. On l'a mis dans un vaisseau, là. Le vaisseau avait l'air d'une boîte de tôle, okay. On l'a tiré. T'sais, dans le fond, c'est littéralement ce qu'on a fait. On l'a tiré jusque dans l'espace. Là, il est allé jusque dans l'espace. Puis là, il est redescendu avec un parachute. C'est un petit vol qui a duré à peu près une quinzaine de minutes. C'était donc un peu comme on l'a vu là il y a deux ans, par exemple, lorsqu'on a envoyé, lorsque SpaceX, pas SpaceX, mais Blue Origin a envoyé dans l'espace William Shatner, hein, le capitaine Kirk. Mais on a vu un peu comment ça se passait. Donc, le Blue Origin a décollé, il est allé jusque dans l'espace. Pendant quelques minutes, les passagers se sont retrouvés en état d'apesanteur avant que le vaisseau redescende sur Terre. Bon, dans le cas d'Alan Shepard, c'est exactement ce qu'on avait fait. Là, on est à ce moment-là en 1962-63. Et ensuite, le premier Américain qu'on va placer en orbite autour de la Terre, c'est l'astronaute John Glenn. Donc, il devient le premier Américain à orbiter autour de la Terre. Il va faire 3 orbites alors que son prédécesseur, Yuri Gagarin, n'en avait fait qu'un seul. Lui, il va en faire 3. Mais bon, à ce moment-là, les Russes étaient déjà passés à autre chose. Mais néanmoins... Et on sait donc, 30 ans après, lorsqu'il y a eu les fameux vols des navettes spatiales, ben ce John Glenn, qui était rendu âgé, il s'est rendu un vieux monsieur là, de 70-75 ans, ben il a fait un vol à bord de la navette spatiale, et malgré son âge, puis on l'a vu aussi avec William Shatner, hein, qui vient d'ailleurs de fêter son 91e anniversaire, je crois.
Wow.
Donc on voit que des gens, même si on est en bonne santé, l'âge n'est pas un obstacle pour aller dans l'espace. Et effectivement, on veut, lorsqu'on va retourner sur la Lune, évidemment, on veut bien sûr envoyer des gens jeunes, en bonne santé, etc. Mais également, on va laisser la place aussi à des gens qui ont une grande connaissance, des ingénieurs, etc., qui seront probablement un peu plus âgés, mais qui seront tout à fait en bonne santé pour pouvoir faire ces vols. Mais bref, ça a été un peu décevant d'apprendre ça, hein, parce que bon, à cause des reculs et des retards accumulés par SpaceX, la NASA dit ben voilà, le vol Artemis, on n'a pas eu encore de façon officielle le rapport de cette mission, mais il continue à garder l'objectif de 2025 sur papier. Ça semble très invraisemblable compte tenu des retards qui sont accumulés depuis le début. Donc, on apprend que le vol, il y aura donc probablement des retards pour le vol de la mission Artemis 3 qui devrait voir à nouveau les astronautes se poser sur la Lune. Et l'autre nouvelle qui a retenu mon attention, c'est que cette semaine, au moment où on se parle, en 1972, en fait, du 7 décembre au 19 décembre 1972, donc il y a 51 ans, c'était la dernière mission Apollo qui avait cours. Hein. On était en plein cœur de la mission Apollo 17. Et dans le cas de la mission Apollo 17, donc les astronautes, alors que le vaisseau, on avait un équipage de 3 astronautes qui étaient Ronald Evans, Eugene Cernan et Harrison Schmitt. D'ailleurs, Harrison Schmitt, ça c'est amusant parce que il était un géologue. Hein. C'est le seul astronaute qui ne venait pas directement d'un programme militaire. Même si certains des astronautes étaient retournés à la vie civile, mais qui avaient quand même connu une carrière militaire. Là. Dans le cas d'Harrison Schmitt, là, on est vraiment dans un autre domaine. C'était un géologue. Et pour la mission Apollo 17, il va devenir le premier civil à être envoyé dans l'espace. Il va... malheureusement, Ronald Evans, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui conduise la voiture. Hein. Il y a quelqu'un qui doit avoir le rôle du gars qui joue le chauffeur de taxi. Dans le cas présent, c'était Ronald Evans. Donc, alors que Evans met en orbite le vaisseau Apollo, qui à ce moment-là avait été rebaptisé America. Les deux astronautes, les deux explorateurs lunaires, Eugene Cernan et Harrison Schmitt, sont montés à bord du LEM, qui avait été rebaptisé Challenger. Hein, le premier, on s'en rappelle tous, le premier s'appelait Eagle. Hein, quand Armstrong dit Houston, le Eagle a atterri, le Eagle has landed. Évidemment, chaque LEM lunaire avait leur nom de baptême. Dans le cas d'Apollo 17, c'était Challenger. Donc, le LEM Challenger s'est posé sur la Lune et les astronautes sont demeurés 3 jours sur la Lune. C'est énorme. Quand on pense que dans le cas d'Armstrong, avec Apollo 11, hein, à peine 2 ans plus tôt, il était resté quelques heures à peine, alors là, ils sont restés 3 jours. Les astronautes ont fait plus de 22 heures d'activité extravéhiculaire, hein, donc à marcher sur la Lune, comme on dit. Ils ont ramassé plus de 110 kilos de roches lunaires. Ils ont parcouru plus de d'une trentaine de kilomètres avec la petite Jeep lunaire, qu'on appelait le Lunar Rover. Donc, ils se sont baladés sur la Lune. Ils ont parcouru plus d'une trentaine de kilomètres. Bref, la mission Apollo 17 a brisé tous les records qui avaient été accumulés au cours des explorations précédentes. Ça a été la mission la plus ambitieuse du programme Apollo.
Et rien depuis? Pendant qu'on parle de tourisme carrément sur la Lune, des sièges à partir de 150 000 $ US qui vont être ouverts, entre guillemets, à des gens du 1%.
Les bien nantis de ce monde.
C'est ça, mais on est rendu là, c'est fou, hein? On a un bond dans le temps aussi énorme, mais là, c'est sky's the limit, littéralement. Là.
Oui, mais aussi, hein, la philosophie a changé. À l'époque, quand on regarde les vols Apollo, c'était des vols qui étaient essentiellement, tout était comptabilisé par la NASA. Hein, c'est la NASA fournissait le vaisseau, fournissait le siège, fournissait l'astronaute, elle fournissait tout. Là. La NASA, c'était l'agence spatiale qui avait le contrôle sur tout. Mais aujourd'hui, à cause des coûts astronomiques, ben on a dû s'ouvrir un peu à l'aspect plus commercial de la chose et on a ouvert la porte à des financiers comme notamment Elon Musk et SpaceX, Bezos et Blue Origin. Blue Origin, qui sont devenus des joueurs importants là, dans le programme spatial, ce qu'on n'avait pas dans les années 60-70. Et dans le cas de la mission Apollo 17, quand on y repense, quand les astronautes Eugene Cernan et Harrison Schmitt sont remontés à bord du LEM, qui a redécollé de la surface de la Lune, il faut quand même se dire que ces gens-là savaient pertinemment qu'ils mettaient fin, hein, ils tournaient la page sur la plus grande aventure de l'histoire humaine. Parce que quoi qu'on en dise, aller sur la Lune demeure encore la plus grande expérience jamais vécue par les êtres humains.
Clairement.
On est allé dans un autre monde. Pensons-y deux secondes. Là. On s'assoit là, puis on prend une grande respiration. On est allé ailleurs. On est sorti de notre monde pour aller. C'est un monde qui est proche. Hein, c'est la banlieue. Mais c'est quand même un autre monde. On y est allé, là. Donc, à ce moment-là, ils ont fermé la porte sur ce qui était la plus grande aventure humaine. Et depuis, il faut bien, tu l'as bien mentionné, on n'y a pas retourné. La philosophie, les philosophies ont changé. Le contexte économique a changé. Il y a plein de raisons. Mais pour beaucoup de gens, hein, parce que bon, la première raison, quand la mission Apollo 17 s'est terminée, la NASA avait annoncé au début, lorsque le programme Apollo avait été mis de l'avant dans les années 60, la NASA parlait d'aller jusqu'à Apollo 20. En cours de route, la NASA dit, ben finalement, on va mettre un terme aux missions lunaires avec Apollo 17. Et là, beaucoup de gens se sont dit, mais pourquoi arrêter avec Apollo 17? Bien sûr, il y avait le coût pharaonique de ces missions lunaires, mais on se disait, en même temps, les vaisseaux Apollo 18, Apollo 19, puis Apollo 20, sont déjà construits. Tu sais, on les a déjà, les vaisseaux, là, ils sont dans notre cours.
On
là,
finit donc pourquoi... pas sur un chiffron, là.
Ouais, c'est ça. Pourquoi ne pas terminer, puisque c'est de toute façon, une grande partie du coût a déjà été déboursé, puisqu'on a construit les vaisseaux, t'sais. Mais la NASA a quand même décidé d'arrêter avec Apollo 17. Apollo 18 a été utilisé dans une mission en 1975 qui a uni les Soviétiques avec les Américains. Il y avait une espèce d'assouplissement et on s'était dit ben, éventuellement s'il y avait un problème. Et on le sait qu'on en a eu un avec Apollo 13. Hein. Je pense que tout le monde se souvienne du film qui mettait en vedette Tom Hanks et qui reprenait un peu la catastrophe d'Apollo 13 qui avait explosé. Une partie du vaisseau avait explosé sur la route vers la Lune et il avait fallu faire preuve d'énormément d'imagination pour ramener les astronautes. Alors on se dit, c'est vrai que si une situation comme ça devait se reproduire, sur qui peut-on compter pour aller se donner un petit coup de main? Et à ce moment-là, les vaisseaux, il faut savoir que les deux seuls, les principaux joueurs dans le domaine de l'espace étaient l'Union soviétique et les Américains. Et même s'il y avait d'énormes tensions entre les deux, lorsqu'il est question de vie humaine, ben à un moment donné, on doit mettre un peu de côté l'aspect politique de la chose. Et les Américains, Apollo 13, on n'avait pas le choix. Là, on n'avait pas de moyens d'aller récupérer les astronautes. Ou bien ils rentraient au bercail de leurs propres moyens, ou c'était la mort assurée. Et avec éventuellement Apollo 13 a comme sonné l'alarme en disant mais attention là, il faut peut-être penser à un plan B. Le plan B, ben en 1975, les Soviétiques et les Américains avec de leur côté les Soviétiques avec le vieux vaisseau Soyouz, les Soviétiques ont pratiquement pas changé, hein, c'est encore la vieille même technologie des années 60-70 qu'ils utilisent. Bon, les boutons à circuit, c'est devenu des boutons poussoirs électroniques là, mais c'est quand même une vieille technologie un peu obsolète mais quand même qui rend bien service, qui fonctionne assez bien là. Donc, eux ont resté à peu près au même niveau. Les Américains, évidemment, ont complexifié les choses. Mais en 1975, on avait construit une espèce de sas qui permettait à la fois aux vaisseaux américains de se brancher d'un côté, les vaisseaux russes, soviétiques, de se brancher de l'autre. Hein. Il y avait comme un corridor entre les deux. Et ce joint qui permettait de brancher l'un et l'autre, Ben évidemment, si on aurait continué avec les missions Apollo en utilisant des vaisseaux semblables ou des systèmes d'arrimage semblables, ben les Soviétiques auraient pu éventuellement prêter secours à un équipage américain et vice-versa. Bon, ça s'est pas produit, mais dans ce cas-là, on avait recyclé le vaisseau Apollo 18 qui devait se rendre sur la Lune, il a été recyclé pour la mission Apollo Soyouz. Quant aux vaisseaux Apollo 19 et Apollo 20, ben Apollo 19, on peut le voir à Cap Canaveral, hein, oui. Il est là, il est exposé, et l'autre, lui, il est exposé, l'autre vaisseau est exposé au Centre spatial Houston, à Houston, au Texas. Donc, c'est les deux derniers vaisseaux. Mais ça satisfait pas tout le monde, hein. Il y a beaucoup de gens. On avait déjà les rumeurs de, bon, peut-être qu'on n'a pas été sur la Lune, mais si on mettait ça de côté, puis qu'on disait, bon, OK, on est allé sur la Lune, beaucoup de gens se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on a arrêté avec Apollo 18? Et la raison principale qu'évoquait la NASA, c'est de dire, ben, il faut savoir que Apollo 18, on a mis fin aux missions lunaires, parce que le coût était trop élevé, et surtout, on n'avait plus le support du public. Et ça, c'est essentiel. Si t'as pas le support du public, le Congrès ira pas de ton bord. Parce que les gens au Congrès, comme les présidents qui sont en place, ce qu'ils veulent, c'est être élus pour la prochaine fois. Hein, c'est malheureux, là. À part Nelson Mandela qui avait dit, moi, je me présenter comme président de l'Afrique du Sud, mais m'a fait rien qu'un mandat. Fait que ça n'a pas d'importance ce que je vais dire ou ce que je vais faire. Que vous soyez content ou non, je vais prendre les décisions qui s'imposent pour le mieux-être de l'Afrique du Sud. Après, ça n'a pas d'importance que vous votiez pour moi ou non, je me présenterai pas une deuxième fois. Mais généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens qui sont au pouvoir veulent y rester, ou le parti politique qui est au pouvoir veut y rester. Et évidemment, pour pouvoir maintenir ce pouvoir, le pouvoir en place, on a besoin du support du public. Et le support du public, ben, il se traduit par la force que va donner le Congrès aux décisions qui seront prises en chambre. Et en 1972, quand il y avait l'émission lunaire avec Apollo 17, ben, à ce moment-là, le public ne s'intéressait plus à la question des vols spatiaux. D'abord, il y avait la crise du pétrole qui pointait son nez à l'horizon. D'un deuxième côté, de l'autre côté, il y avait la guerre du Vietnam qui n'en finissait plus.
Ouais, okay.
Et enfin, il y avait le coût, bien sûr, pharaonique des missions lunaires. Et il y avait aussi un autre aspect qu'on a tendance un peu à oublier, c'est l'intérêt du public n'était plus là. Quand les Américains sont allés sur la Lune avec la mission Apollo 11, il y avait une espèce de sentiment patriotique. Hein. Au début des années 60, on se rappelle ce discours très enflammé du président Kennedy qui avait dit « D'ici la fin de la décennie, nous mettrons des hommes sur la Lune. » Et pourquoi? Parce que c'est difficile. Puis on choisit de faire des choses parce que c'est difficile. T'sais, il y avait, wow, le président Kennedy, quel discours, quel bon orateur.
Un visionnaire.
Et encore, pour moi, l'une des phrases les plus percutantes qui a été dite au 20e siècle, c'est « Ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous, vous pouvez faire pour le pays. » Hein, c'est une phrase là, clé qu'avait lancée Kennedy. Et lorsqu'il avait dit ça, on va envoyer des hommes sur la Lune. Il y avait un contexte également, un contexte politique. On voulait battre les Russes. Hein. C'était un enjeu important d'être les premiers avant les Russes. On avait peur du communisme. On avait peur que si les Russes arrivent les premiers, ils revendiqueraient la Lune, que la Lune deviendrait un territoire communiste. Ça peut paraître fou là, quand on pense à ça, mais c'est quand même c'était la pensée de l'époque. Et on a réussi, les Américains ont rempli le mandat que Kennedy avait demandé. Ils ont dit, on va mettre des hommes sur la Lune, puis on va les ramener vivants, et c'est ce qu'il a fait. Et pour les Américains, après la mission Apollo 11, puis il faut se rappeler, hein, lorsqu'il y a eu la mission Apollo 11, pratiquement la moitié de la planète était scotchée devant leur écran de télé à regarder Armstrong débarquer sur la Lune. Et là, on avait réussi. On s'est dit, bon, mission accomplie, on a une petite case, on fait un crochet dedans, check, on passe à autre chose. Et là, la NASA dit, ben oui, mais là, après Apollo 11, il va y avoir Apollo 12, puis là, Apollo 13, qui a eu un peu un imprévu, puis après Apollo 14, puis Apollo 15, puis Apollo 16, puis ben, on s'est dit, ben là, on y est allé, là, c'est correct, là. Puis là, il y avait toutes les autres préoccupations. On ne se rend pas compte hein, que le désaveu du public, comment ça peut se manifester lors des missions de la mission Apollo 17, par exemple. Puis écoute, là, pense-y un peu, là, Camille. Là. Il y avait deux hommes qui marchaient sur la Lune puis qui se baladaient avec une Jeep. Et les gens téléphonaient au grand réseau de diffusion pour se plaindre qu'on avait enlevé leur feuilleton de l'après-midi pour les remplacer par des images des hommes sur la Lune.
Je suis tellement pas surprise.
C'est triste d'être... Tu dis... De penser là que l'exploit tout à fait colossal que remplissaient à la fois Eugene Cernan et Harrison Schmitt ne pouvait pas rivaliser avec Dynasty.
Non.
tu dis, c'est quand même incroyable. Donc, on n'a plus le support du public. Le coût est très élevé. Il y a la crise du pétrole. Il y a la guerre du Vietnam. Donc, les Américains décident de passer à autre chose et la NASA, ben, doit éventuellement couper, voit ses budgets amputés et éventuellement doit mettre un terme au programme Apollo. Ce qui nous amène à notre histoire d'extraterrestres de ce soir, parce que là, tu vas te dire, oui, mais là, on n'a pas parlé des extraterrestres. Mais ils sont jamais très, très loin.
Mais préfères-tu faire une petite pause avant qu'on entre dans le vif du sujet? Je vois que t'aurais besoin de ta gorge.
Gorgée d'eau. Oui, c'est ça, c'est bon. On fait une petite pause.
Parfait.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission des Radio X-Files et on s'est laissé, Christian est allé nous lancer la nouvelle concernant ces hommes venus d'ailleurs ou c'est presque comme ces petits bonhommes verts, peut-être pas non plus.
Ouais, et lorsque l'on parle des missions Apollo, hein, lorsque la mission Apollo 17 s'est terminée, beaucoup de rumeurs ont commencé à circuler et principalement dans les milieux qui s'intéressent aux ovnis et là on s'est mis à colliger ou à présenter des anecdotes, des incidents qui se seraient produits ou pas produits, inventé, point inventé ou transformé et qui permettrait d'alimenter une espèce de théorie voulant que durant ces missions lunaires, la NASA aurait vu ou aurait été impliquée dans des incidents avec des ovnis sur ou autour de la Lune et ces événements un peu sinistres seraient un peu à l'origine de l'abandon des missions Apollo. Bon, c'est un peu énorme, hein. Je pense qu'il y a des elles sont beaucoup plus simples que d'imaginer des extraterrestres, mais bon, si on regarde un peu ce qui a été fait autour de ça, ce qu'on en dit, parce qu'elles sont nombreuses. Et je te dirais même que pour moi, la conférence que j'ai faite, qui demeure, à mon avis, ma conférence favorite, puis je l'ai présentée à Québec il y a quelques années, et probablement qu'il y a des gens qui nous écoutent ce soir qui étaient dans la salle, c'est une conférence que j'avais intitulée Alerte dans l'espace. Et justement, on reprenait l'ensemble de toutes ces rumeurs qui circulaient autour des vols spatiaux qui impliquaient apparemment des ovnis et on décantait un peu chacune de ces histoires. Mais là, je me suis dit, ce serait amusant de le faire à la radio ce soir en parlant des missions Apollo 17 parce que c'est vrai que ces histoires-là continuent de circuler même si elles sont dénoncées ou elles ont été déboulonnées, si on peut dire, ben elles continuent de demeurer, elles sont toujours présentes et elles continuent de circuler. Et par exemple, si on regarde dans le cas de Apollo 17, après la fin de la mission, bon, ces rumeurs-là ont commencé à circuler. Il y avait déjà eu des incidents dans le passé qui impliquaient des astronautes. L'un d'entre eux, c'était, on disait, oui, les astronautes d'Apollo 11, hein, l'Apollo 11 étant le vol un peu mythique, puisque c'est la première fois que des astronautes débarquaient sur la Lune. Et là, on nous raconte, oui, Neil Armstrong et Buzz Aldrin auraient vu des ovnis, et même Buzz Aldrin, hein, qui est... On a tendance à dire c'est le deuxième homme à marcher sur la Lune, mais il était quand même avec Neil Armstrong. Il a marché 3 minutes plus tard que
Neil Armstrong. Un peu plus, il était main dans la main. Là,
ouais, c'est ça. T'sais, mais bon, c'est vrai que c'est vrai qu'à quelques reprises, Buzz Aldrin lui-même a avoué qu'il avait vu quelque chose de bizarre en allant vers la Lune. Le problème, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que on a fait un peu un montage. Je dirais un montage un peu méprisable de ce qu'il a dit pour essayer de nous faire accroire à des extraterrestres, hein, parce que Buzz Aldrin avait donné une entrevue, puis il a voulu jouer le suspense. Malheureusement, ça a été énormément facile après ça de lui faire dire quelque chose qu'il n'avait pas dit, hein, parce qu'il commence en disant oui, on allait vers la Lune et là tout d'un coup on voit une lumière à notre gauche là, qui clignotait, puis là Neil Armstrong a dit c'est quoi cette lumière là, puis là on se préparait à appeler le centre Houston. C'était véritablement un ovni. Sauf que généralement quand on présente cette entrevue avec Buzz Aldrin, on arrête exactement cet endroit-là quand il dit c'était vraiment un ovni. Mais il faut laisser aller l'entrevue au complet pour comprendre qu'il va vite déboulonner cette affaire-là. Hein. Il dit, là, ça brillait. Et là, on se préparait à appeler le centre spatial de Houston en disant, « Hey, les boys, on a une lumière qui clignote autour de notre vaisseau spatial. » Et là, tout d'un coup, on a réalisé que quand on s'est séparé, quand on a séparé le vaisseau Apollo pour, parce que dans l'espace, il y a une manœuvre où le vaisseau Apollo se décroche du troisième étage de la fusée Saturne V, dans laquelle se trouve le LEM lunaire. Et le LEM, le garage du LEM, est composé d'une espèce de coquille qui ressemble un peu à des pétales de fleurs. Et ces pétales vont s'ouvrir et se décrocher pour ouvrir le vaisseau, pour permettre au vaisseau de commande d'Apollo d'aller accrocher le LEM lunaire sur son nez. Ces panneaux-là, les panneaux du garage, ben ces panneaux-là qui sont un peu comme les pétales de fleurs, une fois qu'ils se sont décrochés, ben ils se mettent à virevolter dans l'espace. Puis ils sont composés d'un métal, de l'aluminium excessivement brillant, là, brillant comme un miroir. Et là, ce que Buzz Aldrin raconte, quand après qu'il lui dit « c'était véritablement un ovni », ben si on le laisse aller 30 secondes plus tard, il dit « jusqu'à ce qu'on réalise que c'était finalement un des panneaux du garage qui tournait, qui virevoltait dans l'espace à quelques kilomètres du vaisseau et qui reflétait, et à chaque fois qu'il tourbillonnait sur lui-même, ben évidemment comme un miroir qui tourbillonne dans l'espace, lorsqu'il arrivait dans notre direction, ben, il nous reflétait la lumière du soleil. Et ça faisait comme un clignotement. Mmh. Mais ce n'était rien de plus qu'une des portes du garage, de ce que, si on prend le terme technique, là, cette partie-là du vaisseau s'appelle le S4B. Non, il dit, c'était un des panneaux du S4B. Mais évidemment, si tu veux faire une émission puis tu veux vendre des extraterrestres, tu dis pas ça. Tu coupes l'entrevue avant qu'il y ait le temps de le dire.
Un petit montage malhonnête comme ça. Là.
Voilà, tout à fait malhonnête. Même Buzz Aldrin a poursuivi la compagnie qui a fait ça, hein, parce que quand il s'est vu, il a vu qu'on avait repris son témoignage et qu'on a fait ça, ben il a poursuivi la compagnie. Éventuellement, il y a eu un règlement hors cours, mais il a poursuivi la compagnie pour ce montage, comme tu dis, tout à fait malhonnête. Ensuite, on raconte dans le milieu des amateurs d'OVNI, d'ailleurs, le film de ce tourbillonnement dans l'espace, je l'ai, moi, quand j'ai fait ma conférence sur les ovnis et l'espace, je suis allé à la NASA, puis j'ai récupéré ce film-là, puis je l'ai montré en salle à quoi ça ressemblait. Puis effectivement, on dirait une lumière qui clignote au loin dans l'espace. Mais bon, on connaît l'explication maintenant. Ensuite, il y a des gens qui disent, ouais, puis quand les astronautes Buzz Aldrin et Neil Armstrong sont arrivés sur la Lune, ils auraient dit qu'ils avaient vu un ovni près d'un cratère. Pouette, pouette, pouette. Ça, tu peux dire, ils ont dit ça, puis ils n'ont pas dit ça. Puis, ouais, c'est ça, pouette, pouette. Ils ont vu le Père Noël, puis Daffy Duck aussi. Parce que ça, là, ça n'existe pas. Quand tu regardes les minutes, toutes les minutes, la conversation qu'il y a entre les astronautes, elle est disponible. Hein. C'est un gros document de 400 pages. Toutes les communications entre Neil Armstrong, Buzz Aldrin, la Terre, etc. Tout ça a été enregistré. Il n'y a pas de passage là-dedans où il dit « Ouais, bon, ben on a vu des ovnis. » Puis là, ben évidemment, ceux qui croient aux ovnis diront « Oui, mais c'est parce qu'on les a pas mis dans le document. » Ben, si c'est pas dans le document, comment toi tu le sais? Ah, je connais un gars qui connaît un gars à NASA dont la belle-sœur travaillait avec le gars qui était responsable des communications. Ouais, 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 okay, 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 on voit d'où ça vient. Là. Ah, on a bien compris ça. Là. Bon, fait que c'est une absurdité, ça. Là. Donc ça a jamais eu lieu. Autre élément qu'on a récupéré, c'est à un moment donné durant les... Parce qu'il y a eu l'émission vers la Lune, hein, c'est l'émission des vols Apollo. Le premier vaisseau qui s'est rendu à la Lune, c'est pas Apollo 11, c'est Apollo 8. Mais Apollo 8 ne s'est pas posé. Hein. Apollo 8 a fait exactement ce que la mission Artemis 1 a fait l'an dernier, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue à la Lune, puis il a orbité autour de la Lune avant de revenir. Donc, c'était la première étape. Oui, on peut se rendre à la Lune, mais oui, on peut se mettre en orbite autour de la Lune. Et lors de la mission Apollo 8, on a eu cette fameuse photo, hein, qui est d'ailleurs considérée comme la photo, la plus grande photo du 20e siècle, où on voit la surface lunaire et oui. On voit la Terre qui se lève au loin. Là. Un lever de Terre sur la Lune, ça a été pris durant la mission Apollo 8. Et durant la mission Apollo 8, il y a un incident qui s'est produit où James Lovell va contacter le Centre spatial de Houston et il annonce qu'il vient de voir le Père Noël. On écoute un petit enregistrement de ce à quoi ça ressemblait.
C'est vraiment un nom de code, le Santa Claus?
Oui, c'est ça. Donc, okay. Il dit, sachez qu'il y a bel et bien un Santa Claus. Et là, voilà que Houston répond, ben, vous êtes les mieux placés pour le savoir. Et là, des gens ont dit, ben voilà, ce mot-là, Santa Claus, c'est le mot de code pour désigner des ovnis.
Mmh.
Ben, si c'était le mot de code pour désigner des ovnis, il faut dire qu'ils n'ont pas dû en voir souvent, parce que quand on revoit l'ensemble de toutes les communications radio entre les vols Apollo et la Terre, de Apollo 1, qui malheureusement a brûlé sur la rampe de lancement, jusqu'à Apollo 17, il n'y a jamais eu qu'une seule fois l'utilisation du mot Père Noël. Et c'est ce soir-là, lorsque James Lovell contacte la Terre pour dire « Sachez que le Père Noël existe ». Et ça tombe mauditement bien, c'était, crois-le ou non, le 25 décembre 1968.
Ben là, ouais.
Alors, et James Lovell a dit, vous savez, là, cette histoire-là de Père Noël, j'ai dit ça parce que lui, il sait que ses enfants regardent la télé, là. Puis tous les gens de sur Terre regardent, c'est la première fois que des humains sont en orbite autour de la Lune. Là. Hein, faut se remettre dans le contexte. Là. Jamais des êtres humains sont allés à la Lune. Là, ils y sont, ils tournent autour. On est le 25 décembre, et voilà que James Lovell lance et dit, ben voilà, sachez Houston que le Père Noël existe. Ben, c'est une boutade, hein, pour dire, bon, il est en route, je viens de le voir, là, il s'en va distribuer les cadeaux, là. Parce qu'il sait que les enfants écoutent. Tu sais, tu dis, si c'était un mot de code, ils l'ont utilisé rien qu'une fois durant tous les vols Apollo, il n'existe aucun autre enregistrement où des astronautes utilisent ce mot-là. Et quand les amateurs d'OVNI disent, ouais, mais c'est parce qu'ils l'ont censuré. Mais pourquoi censurer un mot de code? Tu sais, tu comprends-tu?
On n'est pas supposé inventer savoir, un mot de code?
Ouais, c'est ça. Pourquoi tu vas censurer une conversation où tu as inventé un mot de code justement pour pas avoir à censurer la conversation? Ça devient un peu ridicule, tu sais.
Et payer trop de gens à rien faire.
Ouais, c'est ça. Et là, il n'est utilisé qu'une seule fois. Puis ça tombe bien, hein, que ce soit le 25 décembre, parce que tu sais, si tu dis de toi à moi, si c'était arrivé durant le vol de Neil Armstrong, qu'est-ce que Neil Armstrong aurait dit? Oui, Houston, sachez que le Père Noël des campeurs existe.
Oui, c'est ça.
Tu sais, tu comprends? Voyons, ayons les yeux en face des trous, là. On est le 25 de décembre, il tourne autour de la Lune, tous les gens sur Terre regardent ce qui se passe avec Apollo, et James Lovell dit, ben voilà, sachez que je viens de voir le Père Noël. Ben, ça va dans le sens...
C'est un clin d'œil sympathique.
Ouais, c'est un clin d'œil sympathique. Faut pas y voir autre chose là-dedans. Et ensuite, dans les autres histoires, on a raconté que plein d'astronautes auraient eu des observations d'OVNI dans l'espace. Moi, sache que j'ai contacté tous les astronautes des vols Apollo, tous.
Wow.
Et je leur ai rapporté ce que la littérature disait à propos de leur observation. Tous m'ont répondu avec un gros mot, bullshit. Tu sais, c'est bullshit. Rien de ça ne s'est jamais produit. Toutes les observations d'OVNI qu'on prête à un astronaute, un tel ou un tel, tout ça ne se s'est jamais produit. C'est de l'invention pure et simple.
OK.
Ensuite, si on est toujours dans la foulée des vols Apollo, après la mission Apollo 17, bien évidemment, les rumeurs vont commencer à circuler. Et voilà qu'au printemps de 2007, donc là, on est quand même 25 ans après les vols Apollo, à partir du printemps de 2007, on voit apparaître sur les médias sociaux et principalement sur YouTube, on voit apparaître des images comme celles qu'on était habitué de voir, là, pour ceux qui ont vu les vols Apollo, là, des images un peu saccadées avec ce qu'on appelle des jump cuts. On voit un tableau de contrôle avec des boutons. Et là, tout d'un coup, on voit au milieu de l'écran, on voit un logo, c'est marqué Mission Apollo 20. Mission Apollo 20, c'est quoi ça? Et là, à ces images-là succèdent des images tournées visiblement depuis l'un des hublots du LEM, où on voit une espèce d'engin en forme de cigare qui repose sur la Lune, qui ressemble assez étrangement au vaisseau qu'on voit dans le film Alien, une structure un peu qui semble à la fois du métal et de la roche en même temps. C'est assez étrange. Et ensuite, à ces images se succèdent d'autres gros plans où là, on voit le visage d'une créature avec des traits un peu asiatiques. Sur certaines images, elle a un mécanisme sur le visage, comme une espèce de mécanisme de respiration. Et sur d'autres images, ben, ce mécanisme a été enlevé. Alors évidemment, les amateurs d'OVNI, qui sont toujours mieux informés que tous les autres, ont commencé à dire que ça, c'était des images qui avaient été tournées durant la mission Apollo 20. Apollo 20? Il n'y a pas... Ça s'est arrêté à Apollo 18? Non. Il y aurait eu une mission clandestine dite Apollo 20. Et selon les amateurs d'OVNI, quelque part, durant les missions lunaires, entre Apollo 8 et Apollo 17, donc 9 missions lunaires, dont 6 avec des atterrissages, là, mais 9 au complet, avec incluant Apollo 8 qui avait orbité autour de la Lune. Donc, durant ces missions, la NASA aurait localisé, découvert un vaisseau extraordinaire extraterrestre qui s'était apparemment échoué sur la Lune. Et là, elle aurait donc abandonné l'émission Apollo prématurément avec Apollo 17 pour mettre de l'avant, mettre tous ses efforts pour mettre de l'avant un programme, une mission ambitieuse, la mission Apollo 20. Et quelque part, à l'été de 1976, Apollo 20 aurait pris son envol depuis une base militaire en Californie, se serait rendu sur la Lune. Deux astronautes auraient repéré ce fameux vaisseau extraterrestre, l'auraient visité, auraient trouvé à bord une créature qu'on avait baptisée Mona Lisa, à cause de son visage un peu énigmatique. On aurait trouvé cette créature qui était conservée dans une espèce d'unité de cryogénie. Elle aurait été transférée dans le vaisseau Apollo et ramenée sur Terre, où elle serait toujours aujourd'hui conservée dans une quelconque base militaire.
Est-ce que la Mona Lisa, c'est la même qui avait eu des images, on va dire, quasiment des moulages?
Oui, c'est ça. Donc, c'est les images qui ont circulé. Et là, c'est un peu le discours des amateurs d'OVNI. Mais le problème de ça, c'est que tout ça est une invention. En fait, on sait aujourd'hui, là, ça, il l'a clairement démontré, à l'époque où les images ont commencé à circuler en 2007, ces images-là étaient un coup de publicité d'un auteur français qui s'appelle Thierry Spett, qui travaillait à l'écriture de son roman Apollo 20, une œuvre de fiction, là, purement une œuvre de fiction. Mais, et donc, il a essayé d'utiliser le web pour faire de la promotion pour son livre. Mais Thierry Spett a mis plus de temps à écrire son livre que prévu. Fait qu'au lieu que le livre sorte en 2007, le livre est sorti en 2017. Donc, ça faisait 10 ans que les images de sa Mona Lisa circulaient. Mais évidemment, durant ces 10 ans, Thierry Spett n'est pas resté chez lui les bras croisés, en apprenant que les amateurs d'OVNI, et c'est comme ça que les mythes naissent dans le milieu des ovnis, sont extraordinaires, une vraie pépinière. Donc, le temps que quand les images ont commencé à circuler, que Thierry Spett s'est rendu compte du détournement qu'on faisait de ces images. Évidemment, il a réagi. Il a contacté, il est allé sur les réseaux sociaux, il est allé sur les sites d'amateurs d'OVNI en disant non, ces images-là, c'est pas des vraies images. C'est des images que j'ai fabriquées dans mon garage, que j'ai mélangées avec des véritables séquences d'émissions Apollo pour essayer de créer cet engouement pour la fausse mission Apollo 20. Mais tout ça, c'est de la fiction. Et tu comprendras que malheureusement, le mal était déjà fait. Parce que Thierry Spett, au mieux, on l'a accusé d'être un menteur. Et même s'il apportait des preuves, hein, il y avait le moulage de la Mona Lisa, il y avait toutes les images de chute, si on peut dire, qui n'ont pas été utilisées dans ces trucs, parce que c'était moins bien réussi, mais il les a toutes révélées. Et son roman, depuis, il est sorti, hein, il est disponible en librairie avec toutes les photographies de Mona Lisa et tout le reste, et il explique, il y a un chapitre où il explique comment il a fait tout ça. Mais le mal était fait. À ce moment-là, les amateurs d'OVNI ne veulent pas entendre la vérité. Hein. Pour eux, là, Thierry Spett est un menteur, ou au pire, c'est un agent à la solde du gouvernement, de la NASA, qui essaie de faire œuvre de désinformation. Mais bref, encore aujourd'hui, malgré les démentis, malgré les preuves que Thierry Spett a apportées, qui démontrent très clairement que tout ça est rien de plus qu'une falsification, ben les amateurs d'OVNI continuent de maintenir non, ce sont de véritables images, et ainsi va la vie. Fait que c'est comme ça que dans l'univers des OVNI, on voit que les mythes se construisent, et tu te dis, ben là, si c'était vrai, pourquoi la NASA dissimulerait-elle l'existence des extraterrestres, tout ça? Et l'argument, ça, je dirais que c'est un des arguments auxquels j'ai cru, et que j'ai cru naïvement, ayons pas peur des mots, que j'ai cru naïvement, c'était de se dire, dans les années, à cette époque, les années 70, les années 80, on disait, ouais, mais si on devait révéler aux gens qu'il y a des extraterrestres, ou que nous avons été visités par des extraterrestres, ça déclencherait la panique. Mais ça, là, c'est un faux argument. Et à preuve, faisons simplement regarder là les missions Apollo. Hein, je te l'ai expliqué tantôt, lorsque mission Apollo 11, la moitié de la planète est scotchée devant leur écran de télévision. Ouais. Puis 2 ans après, on appelle pour dire « Hey, sacrez-nous patience avec vos gosses à la Lune, puis montrez-nous dynastie. » Ben, c'est exactement ce qui se passerait. Si demain matin, là, crois-moi, si lundi, on annonce aux gens, il y a des extraterrestres, ils nous rendent visite. Lundi, les gens vont dire, c'est fantastique. Mardi, ils vont dire, c'est le fun. Mercredi, ils vont dire, c'est cool. Mais jeudi, ils vont dire, c'est correct, mais sacrez-moi patience, puis enlevez-moi pas mon match de hockey de samedi soir. C'est ça qui va se passer.
Ce qui explique aussi pourquoi les nouvelles durent de plus en plus dans un délai. Écoute, on disait 24 à 48 heures dans les dernières années, mais là, c'est quelque chose comme 2-3 heures de gros boom de nouvelles. Là. Mais
voilà, c'est ça. Les gens s'habituent, hein, puis à moins d'une menace immédiate, je comprends qu'on pourrait avoir une panique s'il y avait une menace immédiate, mais si demain matin la NASA disait « Ah, oh, il y a des véritables ovnis », ouais, Ben, c'est pas une grosse menace immédiate parce que des ovnis, ça fait pratiquement un siècle qu'on nous en parle. Ça a commencé surtout dans les années 40, puis peut-être même avant. Fait que la menace, là, s'il y a une menace, elle n'est pas vraiment immédiate. Fait que s'il n'y a pas de menace immédiate, là, ben, gardez-moi mes petites émissions du lundi soir, là, Stat et compagnie, là, puis ça va être bien correct, puis vous montrerez vos extraterrestres en deux pauses publicitaires. C'est ça qui va se passer. Et on le voit quand tu penses que des hommes sont sur la Lune à se promener dans une Jeep, puis les gens commencent à téléphoner pour dire qu'ils préfèrent voir Dynastie, on commence à montrer que les gens s'habituent très rapidement au fantastique. Donc, tout cet argumentaire-là, il est bien. Puis là aussi, on nous évoque, oui, puis il y a aussi la panique de Orson Welles, hein, 1938, faut-il le rappeler. Orson Welles va utiliser la troupe du Mercury Theater de la CBS, à New York pour diffuser une adaptation radiophonique d'une pièce de théâtre. Ben, en fait, c'était un roman, La guerre des mondes de H.G. Wells. Il l'avait adapté en pièce de théâtre. Et là, il en a fait une adaptation radiophonique. Et ça a été diffusé, donc, le soir du 30 octobre 1938. Et on nous dit, voilà, les gens ont paniqué. Mais encore une fois, c'est pas vrai. Les gens ont pas paniqué. C'est pas vrai, ça. C'est un mythe, c'est une légende urbaine, ça. Quand l'émission a été diffusée, c'est vrai qu'une partie de la population ont pris l'émission en cours. Quelques centaines ont été anxieux. Disons ça comme ça. Anxieux. Pas plus que ça. Quelques dizaines ont cru qu'il y avait peut-être une véritable menace. Puis une poignée. On paniquait. Mais pourquoi on a l'impression, quand on entend encore cette histoire-là aujourd'hui, on a l'impression qu'il y avait une espèce de panique généralisée? Ben d'abord parce qu'on a fait un film dans les années 70, un film qui s'intitule La nuit qui terrifia l'Amérique, où là on exagère énormément la portée de cette émission-là. Et ensuite, parce qu'il faut se rappeler qu'en 1938, il y avait un bras de fer qui se jouait entre les journaux écrits et la radio qui était naissante. Et à ce moment-là, les journaux écrits, tu comprends que eux défendaient leur fief, hein, ils disaient le vrai journalisme, la vraie nouvelle, c'est dans les journaux, pas la radio. La radio, c'est du divertissement. Et à preuve, regardez l'émission d'Orson Welles. Alors, dans la première édition du New York Times, le lendemain matin, c'était quelques dizaines de personnes sont effrayées. Et le soir même, le Philadelphia Herald titrait « Des millions de gens ont paniqué ». Tu comprends? On exagérait dans le but justement de diaboliser la radio. Mais dans les faits, quelques dizaines de personnes au maximum ont été anxieux. Cette panique créée par Orson Welles et son émission La guerre des mondes, c'est de la foutaise. Et encore une fois, quand j'entends les amateurs d'OVNI évoquer la panique de Orson Welles pour dire « Ah, les gens paniqueraient si on montrait on disait qu'il y avait des ovnis », c'est un faux argument parce que cette panique-là n'a jamais eu lieu. Et l'émission lunaire montre encore une fois que les gens s'habituent très rapidement au fantastique et on en vient à passer rapidement à autre chose. Et comme tu le disais si bien, il y a qu'à regarder les bulletins de nouvelles. La nouvelle, elle est excessivement éphémère. C'est une nouvelle comme ça. Oups, on passe à autre chose. Puis merci, bonsoir. C'est plus là.
T'sais. Même dans des menaces quasiment immédiates, là, ça brasse dans le monde quand on y pense actuellement. Est-ce que le Canadien va bien cette année? Ou tu sais, d'autres questions? Bon, je vais avoir combien là, sur mon retour d'impôt? Puis tu sais,
Voilà, t'as tout à fait raison. Ah ben là, tu sais, on voit des images, hein, c'est des bouleversants, des enfants viennent de se faire bombarder en Israël. Oh, OK. Et après la pause, le Canadien a perdu 4-3 hier. Ah, tabarnouche! On a déjà oublié des enfants qui viennent de se faire bombarder en Israël, nous autres, là. C'est le Canadien qui a perdu 4-3. Ça, c'est grave. Donc, on voit qu'on a un monde qui est très individualiste. Les individus voient ce qui les touche très directement.
C'est un principe de journalisme. T'as dû l'apprendre aussi dans tes études, à la proximité géographique.
Oui,
on en
absolument.
Parle. Hein. Si c'est trop loin, on a l'impression que ça nous concerne pas.
Ne nous concerne pas. Donc, quand on nous sortirait cette histoire-là de menace, bon, c'est un peu futile. Et ensuite, faut-il le rappeler, dans le cas des missions lunaires, pour avoir vérifié tous ces éléments-là, avoir contacté personnellement les astronautes, avoir discuté avec eux, et j'ai montré ces éléments-là, ces lettres-là, ces échanges que j'ai eu avec les astronautes lors de ma conférence, tout ça, c'est de la foutaise. Ça a été inventé par des amateurs d'OVNI pour essayer de créer un mythe, un de plus, dans ce merveilleux monde de la soucoupe volantrée. Mais il n'y a rien là-dedans qui tient la route.
On n'a toujours rien en date d'aujourd'hui, Christian. On n'a toujours pas d'artefacts ou de momification de.
Pas du tout. Mais j'ai tout tapé toutes les saisons. J'ai chez moi toutes les saisons de Dynastie. Fait que je vais aller m'y mettre tout de suite.
Mais je te souhaite un excellent week-end sur ça. Bon divertissement. Est-ce qu'on est ensemble en direct la semaine prochaine? Est-ce que c'est la dernière?
Non. C'est la dernière pour cette année. Donc, nous, on se retrouve quelque part, là, à la mi-janvier, à peu près.
Super. Ben, je te souhaite un excellent temps des fêtes avec tes proches, aux auditeurs également, et merci d'avoir été là chaque vendredi dans le retour de la formule hebdomadaire, et on se retrouve justement en janvier. Prenez soin de vous autres et amusez-vous bien. Puis Christian, merci encore.
Ça m'a fait plaisir. Toi aussi. Ciao.
Bye-bye.